VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Conakry, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. Cameroun, après l'attaque de la mosquée de Kouyapé dans l'extrême nord du pays, les leaders politiques régionaux recommandent à la population d'être vigilante. Cet attentat suicide en pleine prière du matin qui a fait 12 morts est certainement l'œuvre des islamistes nigériens de Boko Haram. Voici un reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka sur la situation, traduit par Maylis Hegel.
Depuis cet énième attentat, les forces politiques du pays sont en alerte. Midjiyawa Bakari, le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, conseille aux musulmans d'être sur leur garde pour aider à prévenir ce genre d'attentat.
Nous demandons à la population de ne pas baisser la garde. Et nous demandons que le même travail abattu par le comité de vigilance en dehors des mosquées soit transféré au niveau des mosquées, quelle sorte d'organisation pour sécuriser les fidèles. Et ceci, c'est une réflexion qui doit être menée de concert avec les chefs traditionnels, les leaders religieux, les autorités administratives. Le travail abattu par le comité de vigilance doit être transféré au niveau des mosquées. C'est possible de faire des petits regroupements ou des petites cellules d'éveil, de manière que si certains prient, d'autres veillent sur eux. Et une fois le premier groupe fini, que le deuxième prenne le relais pour prier. C'est possible. Et qu'on soit davantage plus vigilant pour savoir quels sont les visages nouveaux qui se présentent à nous.
La ville de Kolofata, juste à la frontière avec le Nigeria, a souvent été le théâtre d'attaques menées par Boko Haram. L'imam de la ville de Kolofata, Hamidou Mustapha, dit que demander à un musulman de ne pas prier avec d'autres n'est pas en accord avec les enseignements religieux. Mais cela peut être une option lorsqu'on est confronté au terrorisme.
Remettez le Coran à n'importe qui, vous lui demandez de lire pour mieux comprendre l'islam, ce n'est pas tâche aisée. Vivre ensemble ne se construit pas avec des rivalités. On n'avancera jamais en voulant faire des confrontations à chaque fois, mais on avancera plutôt à essayer de savoir davantage de la culture de l'autre et à respecter les différences que Dieu lui-même a laissées lors de la création.
Le général Kodji Jacob, un ancien commandant, a également appelé la population à collaborer avec le gouvernement en dénonçant tout étranger paraissant suspect.
À partir d'ici, vous voyez les Nigériens qui passent autour. C'est les mêmes familles, de part et d'autre de la frontière. Donc naturellement, on doit avoir les flux de population de part et d'autre. Maintenant, c'est justement le rôle de la gendarmerie. Quand il y a flux de population, c'est la gendarmerie qui sait identifier qui. Il faut filtrer pour qu'on ne reçoive pas les malfrats dans notre pays.
Depuis 6 ans, Boko Haram a mené des attaques au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Mais la coalition régionale a multiplié les raids contre les islamistes pour écraser leur insurrection.
En RDC, 4 militaires congolais ont succombé aujourd'hui de leurs blessures au lendemain d'attaques simultanées des rebelles ougandais des ADF contre des positions de l'armée et des casques bleus dans l'est du pays. C'est ce qu'affirme un porte-parole militaire congolais. Nous avons perdu 4 éléments après l'attaque menée par les forces démocratiques alliées ADF mercredi à Opira, dans la province du Nord Kivu, a déclaré à l'AFP le lieutenant Mark Azukai, porte-parole de l'opération militaire lancée contre la rébellion dans cette région, en ajoutant que 2 ADF ont également été tués dans les combats. Opira est située à environ 50 km au nord-est de Beni, une zone de massacre et d'attaque attribuée aux ADF ougandais. Au Congo-Brazzaville voisin, l'opposition réunie au sein de la plateforme FROCAD IDC a accepté de participer à l'élection présidentielle de mars prochain. C'est l'une des principales conclusions de la convention que cette plateforme vient de tenir à Brazzaville. La coalition dit aussi continuer à réfléchir sur la stratégie du candidat unique pour l'opposition. Une coordination de la plateforme FROCAD IDC a d'ailleurs été mise en place dans ce but. Elle est dirigée par Charles Zachary Boao, ancien ministre de la Défense, passé à l'opposition.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'OMS a proclamé officiellement aujourd'hui la fin de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest avec l'arrêt de la transmission du virus au Libéria. L'Organisation mondiale de la santé affirme que toutes les chaînes connues de transmission en Afrique de l'Ouest ont été stoppées, mais le risque persiste et un vaccin est nécessaire. C'est ce qu'a indiqué Pierre Mendiarat, chef de programme à Médecins sans frontières au Libéria. Il nous parle des perspectives de la lutte contre la fièvre hémorragique.
L'amplitude inédite de cette épidémie a montré le problème des maladies qu'on appelle négligées, qui, parce que elles arrivent dans des pays en fait qui ne sont pas des pays riches et que elles ne touchent pas heureusement tant de personnes que ça, elles n'intéressent pas du tout la recherche scientifique commerciale, on va dire, des entreprises pharmaceutiques. Et on s'est aperçu qu'il n'existait aucun traitement et aucun vaccin pour cette maladie, pourtant mortelle à 60% des cas. Ça nous a rappeler que finalement les systèmes publics, l'OMS et les organisations comme la nôtre, et on essaie de le faire aussi, doivent essayer de financer, de trouver des modèles innovants pour faire de la recherche scientifique, pour trouver des modèles pour ces maladies dites négligées.
Pierre Mendiara, chef de programme à MSF au Liberia, il était joint à Monrovia. Au Niger, l'opposant et candidat à la présidentielle du 21 février, Mahamadou, écroué depuis deux mois, se considère désormais comme un prisonnier politique. Maître Souley Oumarou, un de ses avocats, a déclaré que M. Mahamadou n'exercera plus de recours pour sa remise en liberté. Et puis en Côte d'Ivoire, l'ONU va continuer de réduire les effectifs de sa mission à cause de l'amélioration de la sécurité et du bon déroulement de la récente élection présidentielle. Plus de détails avec Morgane Guiriec.
Aïchatou Mindaoudou, représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire, a déclaré devant le Conseil de sécurité que les effectifs de l'ONUCI, soit 5437 soldats et 1500 policiers, vont passer à 4000 soldats d'ici au 31 mars. Selon l'ancienne chef de la diplomatie nigérienne, aucun incident grave n'a émaillé la période des élections ivoiriennes, mais les actes de banditisme et des vols à main armée restent un problème, de même que les menaces d'attaques terroristes. Elle a ajouté aussi que le gouvernement ivoirien doit accélérer la réconciliation nationale, qui est à la traîne derrière la reconstruction et le redressement économique. Pour sa part, l'ambassadeur ivoirien Claude Bois-Camon a indiqué que son gouvernement souhaitait un retrait de l'ONUCI en décembre 2017, avec possibilité de prolongement en début de 2018.
Au Burkina Faso, le gouvernement post-transition du président Roch Kabore, dont la mission est de stabiliser la démocratie et faire face au chômage massif et endémique des jeunes, selon le Premier ministre Paul Kaba-Tieba, devrait manquer la rupture avec l'ère de Blaise Compaoré, qui a dirigé le pays avec une main de fer. Au micro d'Éric Manirakiza, les explications de Serge Théophile Balima, directeur de l'Hypermic, école de journalisme et centre de recherche à Ouagadougou.
Globalement, on peut dire que c'est une rupture d'avec l'ère Compaoré. C'est vrai qu'il y a quelques grands acteurs qui ont cheminé longtemps avec le président Compaoré, qui ont joué cependant les premiers rôles dans la contestation de sa volonté démesurée de modifier l'article 37 de la Constitution. Alors ces gens qui ont divorcé d'avec lui avec fracas, avec risque énorme, je pense, méritent qu'on leur fasse confiance, ne serait-ce que dans un premier temps, jusqu'à ce que les actes qu'ils vont poser nous prouvent qu'ils veulent nous ramener au temps de l'ère Compaoré. Mais je pense que pour le moment, on peut émettre une hypothèse positive jusqu'à preuve du contraire.
Serge Théophile, Balima, joint à Ouagadougou. Et puis en Indonésie, des attentats suicides ont semé la panique aujourd'hui à Jakarta, la capitale. Des assaillants liés au groupe État islamique et inspirés par les attaques de Paris ont tué par balle deux civils et détruit un café. Le point avec Esha Sarai.
Le groupe État islamique a déjà revendiqué ces attaques. Une première explosion est survenue dans un café d'un quartier de Jakarta qui abrite des centres commerciaux et des bureaux de plusieurs ambassades et agences de l'ONU. Puis deux assaillants armés de pistolets ont pris deux otages dans le même quartier. Des témoins ont indiqué qu'ils étaient sortis d'un café et ont commencé à tirer sur des passants. Selon la police, cinq assaillants ont été abattus. Joko Widodo, président indonésien, a dénoncé ces attaques. D'après le Soufan Group, une firme spécialisée sur la sécurité, 500 à 700 Indonésiens ont rejoint les rangs du groupe État islamique. Ces attaques semblent confirmer les craintes que certains djihadistes reviennent dans le pays pour semer la terreur.
Et vous terminez économie, les importations de la Chine en provenance d'Afrique actuellement en chute libre. Elles ont baissé de près de 40% entre 2014 et 2015 et s'élèvent désormais à 67 milliards de dollars. La conséquence du ralentissement de l'économie chinoise et de la dégringolade des cours des matières premières. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.